Eh bien, nous allons continuer à méditer l'Apocalypse. Hein. C'est pas parce qu'on a changé d'année qu'on va changer de... nourriture. Et ce que nous avons déjà regardé, nous avons regardé peu de choses en vérité, parce que l'Apocalypse est toujours pareil. Il faut toujours se mettre dans la bonne direction et puis se mettre dans la lumière véritable. La lumière véritable de l'Apocalypse, c'est de comprendre qu'elle ne vient pas nous éclairer sur la foi, pas principalement en tout cas, ça c'est la révélation, nous éclaire sur la divinité, sur les secrets divins. Mais l'Apocalypse, c'est la foi qui révèle ce qu'elle est à l'intérieur du point de vue de la grâce. C'est une révélation sur les sources de l'espérance, l'Apocalypse. Ça ne se lit pas comme l'Évangile, ça ne se lit pas comme, les Épîtres. Et il y a une condition pour comprendre l'Apocalypse, il faut être dans la charité. Quelqu'un qui ne serait pas dans la charité ne pourrait pas comprendre les sources de l'espérance. C'est le livre de l'espérance, l'Apocalypse. Si un voile se soulève, extrêmement délicat d'ailleurs, et qui dévoile, qui révèle les secrets que la révélation ne révèle pas. C'est la révélation de la révélation. Heureux celui qui lit, c'est-à-dire heureux aussi ceux qui entendent les paroles de ce livre. C'est très curieux, mais c'est comme ça, l'Apocalypse se lit. Ça ne se lit pas tout seul. L'Apocalypse, ça se lit ensemble. C'est une révélation communautaire. C'est une révélation universel. C'est une révélation catholique. C'est le nœud, mais c'est, on peut dire que le magistère pour lequel le Saint-Esprit dévoile les secrets éternels de Dieu, tous ceux qui ne sont pas inscrits dans les livres ou dans les expériences diverses des saints. Il y a un nœud, oui. Vous avez la Sainte Écriture. Vous avez d'abord, il faut bien dire, il faut bien regarder, il y a d'abord Marie. Et Marie a engendré la possibilité qu'il y ait l'Église, qu'il y ait le corps mystique du Christ. Et c'est au bout d'un certain temps qu'il y a eu le corps mystique du Christ. Que Dieu ne se révélait plus à titre par un prophète ou par Jésus lui-même, mais qui se révélait à travers le témoignage du corps mystique du Christ au bout d'un certain temps. Et c'est seulement après qu'il y a eu ce témoignage de l'Immaculée Conception qui irrigue de manière infaillible le corps mystique de Jésus dans la révélation du Verbe de Dieu. C'est au bout d'un certain temps qu'il y a eu l'écriture du Nouveau Testament. L'écriture du Nouveau Testament n'est pas venue comme ça. Jésus est mort, tout de suite l'Évangile. Non. Il a fallu attendre des dizaines d'années. C'est ça. Le premier, l'Évangile de Saint Matthieu, c'est à peu près vers les... s'origine à peu près dans les années 50. Et l'Évangile de Saint Jean, lui, c'est déjà au deuxième siècle. Parce qu'il était vieux, vous savez. Il a écrit l'Évangile, il était très vieux. Donc il y a d'abord eu Jésus, puis il y a eu Marie, qui a donné, déjà sur la terre, cette révélation que Jésus se cachait dans son corps mystique vivant. Sur la terre, Jésus est caché dans son corps mystique vivant, c'est-à-dire les membres vivants de son corps mystique vivant. Les chrétiens, par ses disciples. Il y a eu bien compris ça, à ce moment-là, il peut y avoir le Nouveau Testament. C'est pour ça. Il faudrait presque saisir, grâce à l'Apocalypse d'ailleurs, parce que c'est l'Apocalypse qui est le livre que l'Église a mis à la fin de la Bible. C'est l'Apocalypse qui va nous faire comprendre comment on peut lire aussi les livres précédents, l'Évangile, c'est l'huître. Et la clé, c'est Marie. C'est évident ça. Enfin, pour moi, c'est évident. J'espère que pour vous aussi. C'est pour ça qu'on vient ensemble. Bien sûr que Marie a été pour les apôtres quelque chose de très mystérieux. Pour Joseph, quelqu'un de très intime. Pour Saint Jean, pour Saint Jean qui a été jusqu'au bout de la maturation de l'Immaculée Conception, de l'incarnation de l'espérance à l'état pur, et à l'incarnation de la charité à l'état pur dans la femme. Et c'est lui qui, en tant que prêtre, dans la dimension sponsale d'ailleurs du sacerdoce de Jésus, sa vie de Marie, à travers lui, a permis à Marie de fleurir sa grâce d'Immaculée Conception jusqu'au sommet. Et ben, Jésus, lui, n'a pas augmenté au fur et à mesure que les années ont passé, les 33 années plus les 3 années de prédication, tu vois, les 36 en tout. Jésus, son amour divin qui brûlait son cœur humain n'a pas augmenté. L'intensité de l'amour de Jésus, quand il était enfant, quand il était embryon, quand il était sur la croix, quand il est ressuscité d'entre les morts, le cœur de Jésus, le cœur humain de Jésus, aime le Père et nous aime avec exactement la même intensité d'amour. Il n'y a pas eu augmentation d'amour dans Jésus. Il a grandi en sagesse. Mais pas en charité. Et, tandis que Marie, elle a commencé sa vie dans la grâce d'Immaculée Conception, dans la plénitude de la grâce adoptant, et son amour venu d'en haut n'a cessé de brûler son cœur de manière plus intense. Donc la charité surnaturelle venu du ciel en Marie n'a jamais cessé de brûler. Et ce qu'il faut comprendre quand on lit l'Apocalypse, c'est toujours mon introduction. À chaque fois, on apprend d'une manière peut-être un peu différente. Le moment le plus grave, le plus impressionnant de la croissance de la charité venue d'en haut, dans le cœur de Marie, c'est Saint Jean, c'est l'apôtre de Jésus. C'est Saint Jean qui en était responsable devant Dieu. C'est passé par lui. Donc pour les apôtres, Marie était quelque chose qu'on ne devait pas toucher. C'est un secret, un mystère, sûrement. Pour Saint Joseph, c'est quelqu'un de très intime. Pour Saint Jean, c'est tout à fait. Ça va plus loin que l'intimité. Ça va beaucoup plus loin que l'intimité. Il doit assumer dans son sacerdoce mystique avec Marie pendant 22 ans, il est responsable de ce fait que la nouvelle ère, grâce à lui, avec lui, et à travers lui, et par la médiation de sa prière, par la médiation de sa supplication, où il va laisser Jésus ressusciter à travers lui, prêtre, s'emparer de Marie pour un sursaut d'un amour toujours plus grand. Et ça passe par lui. Et il le sait. Et Marie le sait aussi. Et donc, c'est plus qu'une intimité qu'il y a avec Saint Jean. Marie doit beaucoup à saint Jean. Parce qu'à un moment donné, effectivement, le sursaut d'amour, le dernier sursaut d'amour, va tellement loin que, toute la création s'est rassemblée dans son amour. À elle, un petit peu de la même manière que la création s'est rassemblée à l'intérieur du cœur de Jésus quand il s'est réveillé dans la résurrection. Mais lui, c'était la manière donc, de Jésus masculine. Et là, c'est la nouvelle ère. Lorsque c'est arrivé à ce point que c'était le même degré d'intensité d'amour que celui de Jésus quand il passe de la mort à la résurrection, on peut dire, voyez, que c'est saint Jean qui a dû amener Marie jusqu'au baptême de la dormition. C'était un baptême, le moment où la charité, l'amour, Marie, devient tellement grand qu'il ne peut pas aller plus loin. Même Dieu ne peut pas faire que ça aille plus loin. Elle atteint un degré d'affinité et de complémentarité avec le cœur de Jésus, qui lui n'a jamais augmenté en amour parce qu'il a toujours été dans l'amour hypostatique. Dire ce que c'est qu'être disciple de Jésus. Jean est un disciple de Jésus. Nous, on est des disciples de Jésus. On est des disciples de Jésus. Et Jésus doit passer par nous pour que la création entièrement parfaite, entièrement purifiée, puisse arriver à un degré d'affinité avec la Jérusalem glorieuse. C'est la troisième étape des apôtres, vous voyez. Tu vois que Marie dans la dormition, bah, maintenant, ça y est, c'est la création de Dieu est dans un état de perfection absolue, en Marie glorifiée. Et donc, c'est tout le travail apostolique de l'Église que d'amener toute la création à ce degré d'affinité. Et c'est le travail des disciples de Jésus. Ne peut passer que par nous pour ça. Ne peut passer que par Marie. Cette fois-ci, c'est Jésus et Marie. Et Joseph aussi, on le sait. Mais ça, c'est petit à petit qu'on va découvrir ça. Que l'Apocalypse nous montre Saint Joseph. Et qu'ils sont trois. Qu'ils sont trois glorifiés. Et qu'ils ont besoin de nous pour engendrer la création nouvelle. Et ça, c'est une révélation. Cette révélation ne peut être donnée qu'après l'Assomption de Marie. Et elle ne peut être donnée qu'à saint Jean. C'est le seul qui peut comprendre. Elle n'a pas été donnée à saint Jacques. Moi j'aime bien saint Jacques. Elle n'a pas été donnée à saint Jacques, mais j'aime beaucoup saint Barthélemy. J'ai beaucoup d'admiration pour saint Barthélemy. Nathanaël est incroyable. C'est saint Jean qui a fait ça. Qui a été... Alors c'est lui qui a reçu. Alors, tandis que son sens, son cœur, sa prière, sa contemplation de disciple de Jésus s'est élargi aux dimensions de l'Assomption. Une fois que Marie est dans l'Assomption, il a continué à s'élargir, vous comprenez? Ben, c'est pas parce que Marie est dans l'Assomption que du coup il dit bon, ça va. C'est vrai, c'est toujours son fils, c'est toujours son père. Parce que Saint-Jean était le père de Marie. Et il a été le fils de Marie. Et il a été le disciple de Marie. Cette fois-ci, maintenant, il est disciple de Marie. Il est le père de Marie. Et il est le père de Marie dans la création. Et la révélation va montrer qu'il va falloir qu'il soit le père de Marie aussi dans la Jérusalem glorieuse. Pour que la communication de la gloire réalise le mystère de la Jérusalem glorieuse. Et qu'au fond, la source de tout ce que Dieu fait l'adoration même dans la gloire vient de l'Église, vient des disciples de Jésus. Jésus ne peut rien faire sans nous, c'est ça. Et tout va se réaliser sous le régime de la foi et sous le régime de l'espérance et sous le régime de la charité. C'est dans la nuit, accoisée de l'âme, que s'élargit la création tout entière aux dimensions des disciples du cœur de Jésus qui bat dans notre poitrine. On est accordé à ce que Saint Jean vit à ce moment-là, pendant 40 ans, adapté petit à petit à sa mission apostolique, surnaturelle. C'est en faisant ça qu'il peut recevoir l'Apocalypse. Et nous aussi. C'est pour ça que ça ne peut pas se lire n'importe comment, c'est évident. C'est pour ça qu'on le lit ensemble. On ne peut pas s'attribuer une interprétation d'Apocalypse. Ce n'est pas possible. L'Apocalypse ne s'interprète pas. L'Apocalypse est. L'Apocalypse, c'est un dévoilement. Alors, on le reçoit. On l'entend dans la lumière à laquelle il a été donné, puisque c'est une Haggadah. Il faut qu'on puisse rentrer dans cette espèce de découverte que Saint Jean fait de la terre, de son apostolat marial, surnaturel, à la fois glorieux et à la fois spirituel. C'est l'espérance. Et donc c'est le livre qui montre comment Saint Jean ouvre l'espérance chrétienne dans le cœur des disciples de Jésus, dans notre cœur à nous, quoi. Mais ensemble. Et on a lu l'évangile du 8 janvier qui dit, voilà, c'est Saint Jean-Baptiste, il dit, mais pourquoi est-ce que Jésus baptise? Pourquoi est-ce que Jésus a été baptisé? Jésus a-t-il besoin de baptême? Pourquoi est-ce que Jésus a été baptisé? Et pourquoi est-ce que Jésus baptise?
C'est vrai?
Pourquoi? Jésus a besoin de baptiser. Jésus, c'est l'union hypostatique. Il est entièrement plongé en Dieu, et Dieu entièrement plongé en lui, jusque dans sa substance. Pas besoin d'être baptisé. Mais Jésus, quand il rentre dans le Jourdain, ça veut dire les eaux qui descendent vers le bas. Jésus se plonge dans les eaux qui descendent vers le bas. Ça veut dire que Dieu change la signification de l'eau, de la vie qui descend vers le bas. Et en étant baptisé, Jésus reçoit le baptême que vont recevoir tous ceux qui seront baptisés. Parce que le baptême que nous recevons, c'est le baptême de Jésus. C'est pas lui qui a été baptisé. Et oui, il a été baptisé, mais c'est le corps mystique. C'est le corps entier de Jésus qui est baptisé. Et nous en faisons partie. Voilà pourquoi Jésus doit être baptisé. Quand il est baptisé, c'est nous qui sommes baptisés. Il a baptisé les eaux de notre baptême. C'est inouï. C'est quelque chose d'inouï, le baptême de Jésus. Et il faut bien... Quand on médite le premier mystère lumineux, le baptême de Jésus, c'est... On voit tout de suite que c'est lié à Marie, c'est lié à Joseph. Immédiatement, Joseph vient de mourir. Jésus a 33 ans. Notre baptême, Jésus a 33 ans. Voilà pourquoi on donne l'âge de 33 ans à Jésus. Parce que c'est l'heure de ce baptême. baptême de Marie, le baptême dans lequel Marie est rentrée. Quand Marie est rentrée dans ce baptême de feu, de l'unité du Père et du Fils, elle a fait ce passage de la mort à la résurrection, si vous voulez, de toute la création. Et c'est toute la création qui, avec elle, s'est introduite dans la résurrection du Seigneur, dans le sein du Père, glorifié. La Sainte Famille s'est constituée là. C'est extraordinaire. Et Jean-Baptiste, lui, le sait, ça. Jean-Baptiste, il le sait. Alors, c'est pour ça que les autres, c'est les Juifs qui ne comprennent pas trop. Dans l'évangile, chapitre 3 de l'évangile de Saint Jean, verset 30. Ah, il dit mais celui qui a l'époux, ça faut le savoir par cœur, chapitre 3, puis verset 27 très exactement, parce que c'est 3 fois 9, 27, c'est la paternité, hein, 9, donc, c'est 3, c'est l'amour du Père. Et celui qui a l'époux, c'est l'épouse et l'ami. Et Saint Jean, il a entendu de ses oreilles ça. Il a entendu Jean-Baptiste dire ça. Mais attends, c'était avant, à peu près 90 ans avant qu'il ait reçu l'Apocalypse. Hein. Environ 88 ans avant. Je ne sais pas exactement. Jean-Baptiste a dit ça. Non, qu'est-ce que je raconte? C'est pas 80 ans, environ 80 ans avant. C'est extraordinaire que Jean-Baptiste, et Jean s'en rappelle, vous voyez. Ça fait partie de ces choses extraordinaires que, après avoir écrit l'Apocalypse, il va écrire l'évangile de Saint Jean. Et c'est une des paroles de Jean-Baptiste, les paroles de Jean-Baptiste dont il se rappelle, ça, sont des paroles clés. Celui qui a l'époux, c'est l'épouse. Et celui qui aime l'époux est emporté dans un ravissement d'allégresse à la présence des épousailles. Voilà comment Jean-Baptiste explique que Jésus est baptisé et donc que son baptême doit se communiquer. Il y a tout de suite l'appel à la sponsalité. L'époux. Et Jean-Baptiste, lui, c'est l'ami du Père. Celui qui aime le Père. L'époux, c'est le Père. Et l'épouse, c'est toute la personne divine en Dieu qui épouse le Père. Qui l'a intimement. C'est le Verbe de Dieu. Et celui qui a l'époux, c'est l'épouse. Et Jean-Baptiste, il a vraiment, le Saint-Jean, il s'en rappelle qu'il a communiqué mystiquement, expérimentalement, dans l'espérance. C'est très grand ce qu'il a fait, Saint-Jean-Baptiste, parce qu'il a communiqué à Saint-Jean et puis à ses quelques disciples, en l'occurrence Saint-André aussi. Et Saint-Jacques, il a communiqué cette intimité, la très sainte Trinité, qui palpite à l'intérieur de Jésus, dans son humanité. Il l'a. Il palpite à l'intérieur de l'Immaculée Conception, qui est à l'unisson de la divinité de Jésus. Et qui palpite à la maternité divine de Marie. Il a entendu avant de naître, Saint-Jean-Baptiste, avant de naître, il a entendu la paternité de la première personne de la très sainte Trinité dans le Verbe de Dieu en sa chair d'enfant. C'est quelque chose, il est très mystique, hein, Saint Jean-Baptiste. Souvent on le représente comme un espèce de rhinocéros qui hurle sur les rochers, tout ça. On n'ose pas s'approcher. Si un lion s'approche, il est terrorisé, tellement il crie très fort. Il est très très mystique, Saint Jean-Baptiste. Il est très. Il est tonique, hein, mais. C'est vrai qu'il est tonique, mais très 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 mystique. Pour lui, toute sa vie, c'est de vivre nommément et intimement les profondeurs de plus en plus intensément de chacune des trois personnes de la très sainte Trinité. L'époux, c'est le Père. L'épouse, c'est le Verbe. La voix des épousailles, c'est l'Esprit Saint. Jésus, il a donné le baptême à Jésus. Et donc Jésus a baptisé toutes les nations, toutes les multitudes. Et donc il s'incorpore à ce baptême que Jésus fait de toute l'humanité future, c'est-à-dire jusqu'à la fin. Et donc il s'y engloutit. Et donc il n'y a plus que l'épouse qui entend à travers lui la voix de l'épouse. Alors du coup, il y a la présence des épousailles qui sont dans la très sainte Trinité, qui s'éprouvent dans la chair. Vous comprenez que la vie spirituelle de Saint Jean, à l'âge de 18 ans, a commencé, de 16-17 ans, a commencé comme ça, vous voyez, il a commencé dans une union transformante qui allait déjà très très loin. Voilà, bon, tout ça pour dire quand même que vous voyez qu'il faut bien 70-80 ans plus tard, avec tout ce qui s'est incarné, tout ce qui s'est incarné à l'intérieur de lui, de cette gloire de la très sainte Trinité, qui s'est de plus en plus incarné. C'est devenu de moins en moins la foi, c'est devenu de plus en plus la grâce, et c'est devenu de plus en plus la gloire. Et à un moment donné, il touche. Saint Jean va toucher à un moment donné, physiquement, on peut dire. Un peu comme Marie, à un moment donné, elle va toucher presque physiquement la résurrection de Jésus à travers la nuit écrasée de son âme dans la dormition. Et à un moment donné, Saint Jean va toucher presque physiquement la Sainte Famille Glorieuse. Et c'est là qu'il reçoit l'Apocalypse. Bon, faut sentir ça, hein. Nous, on est les disciples de Jésus aussi. Et donc ça va lui être dévoilé, ce lien presque physique, qui d'ailleurs est physique aussi. Ce lien bien réel entre la Jérusalem glorieuse et la Jérusalem spirituelle. Voilà, donc il y a cette apparition de Jésus, et Jésus lui apparaît. Mais quand Jésus lui apparaît, il lui apparaît comme inséparé de l'Église, inséparé de ses membres vivants, de son comité vivant, d'une part, et son vêtement, c'est un vêtement féminin. Enfin, son vêtement, sa gloire, c'est la gloire de l'Épouse. C'est ce sens-là, j'ai déjà vu. Donc nous étions en train de lire les sept. Et on va essayer quand même d'avancer. Hein. Les sept églises. Nous avions vu la première église, qui était l'église d'Éphèse. On avait vu Smyrne, on avait vu Pergame. À l'ange de l'église de Thyatire écrit ceci. Il dit ceci, le Fils de Dieu, celui qui a des yeux comme une flamme ardente, et dont les pieds sont semblables à de l'airain. Je connais de toi les œuvres, l'amour, la foi, le service, l'endurance et la constance, et tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Mais j'ai ceci contre toi. Tu laisses la femme Jézabel, celle qui se dit elle-même inspirée. Elle enseigne et égare mes serviteurs à... Elle enseigne et égare mes serviteurs à se prostituer, à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui donne un peu de temps pour qu'elle fasse conversion, mais elle ne veut pas faire conversion de sa prostitution. Voici, je vais la jeter dans un lit de douleur et ses adultères avec elle dans un grand tourment, à moins qu'ils ne fassent retour de leurs œuvres. Et ses enfants, je les tue à mort. Toutes les communautés, toutes les églises pénétreront, comprendront que je suis le scrutateur des reins et des cœurs. Je vous donne à chacun selon vos œuvres. Je vous dis à vous, au reste de Thyatire, à ceux qui n'ont pas cette doctrine, qui n'ont pas pénétré les profondeurs du Satan, comme ils disent. Non, je ne jette pas sur vous un autre fardeau, sauf ce que vous avez. Tenez-y ferme jusqu'à ce que je puisse venir. Au vainqueur et à celui qui, jusqu'à la fin, garde mes œuvres, je donnerai puissance sur les nations. Il les pétra avec une verge de fer. Il les brisera comme un vase d'argile. Comme je l'ai reçu de mon père, je lui donnerai aussi l'étoile du matin, qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Allez, ça c'est beau ça. Alors que nous sommes les membres vivants de Jésus vivant. Nous sommes l'église de Thyatire. C'est-à-dire que les profondeurs de notre âme ne nous intéressent pas. Et pourquoi est-ce que je suis blessé? Et pourquoi est-ce que les profondeurs de Satan et la psychologie des profondeurs? L'église, les membres vivants du Christ, Saint Jean, Marie, n'ont rien à voir, c'est un autre monde par rapport à la spiritualité de la psychologie des profondeurs, les profondeurs de Satan, comme ils disent. Ah oui, on ne voit pas Saint Jean se dire « Ah mon Dieu, oui, je suis tout seul, je suis blessé, Marie est partie, qu'est-ce que je suis triste ?» Qu'est-ce que je me sens mal? Qu'est-ce que je souffre? Je suis attaqué par le diable? Jamais. Ça ne viendrait même pas à l'esprit. Ça ne vient à l'esprit d'aucun d'entre nous non plus. Savoir si je suis paranoïaque, si je suis... Quels sont mes choix? Est-ce que j'ai bien fait? Ça, c'est la psychologie. Lacan. Oui, on va être... C'est vrai que Lacan est une grosse lacune. Non, c'est très très gros. C'est très nul. C'est lamentable, si vous voulez. Qu'il y ait des disciples de Jésus qui expliquent le Saint-Évangile, la révélation. Évidemment, ils n'ont pas accès à l'Apocalypse, ceux-là. Comme étant des disciples de Jézabel. C'est pas possible, ça. C'est toujours au-delà de nous que se situe notre vie, notre contemplation, notre espérance, notre amour, notre foi, notre grâce, notre corps spirituel n'est pas à l'intérieur de notre âme. C'est pas dans notre tête. Ça vient d'en haut et nous nous y plongeons. Nous sommes l'Église de Jésus. Nous sommes les membres vivants. Nous sommes les disciples de Jésus. Nous sommes Jésus vivant. Jésus est vivant à travers notre corps spirituel là. La création tout entière est vivante dans Jésus qui est là. Il n'y a pas de psychologie des profondeurs. La psychologie des profondeurs, c'est un déplacement. Et l'Église Thyatire montre que, du coup, comme on est déplacé dans notre âme, on se sent mal, du coup, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on fasse des œuvres. Mais l'œuvre de Dieu, c'est la charité. La Thyatire, c'est l'esprit de service. On est des instruments. Au service de Dieu, au service du ciel et au service des autres. Et c'est pas pour se sentir mieux. Oh, oui. Jézabel, c'est pour se sentir mieux. sujet de, l'église, à l'ange de l'église de Sardes écrit. Remarquez, c'est beau, hein, voyez, au vainqueur, voilà ce que dit le Saint-Esprit. Hein. Voilà ce que dit le Saint-Esprit à Saint-Jean, à chacun d'entre nous. Dès que nous portons l'église de tous les temps, et surtout l'église de la fin. Parce que c'est ça, l'Apocalypse, vous avez bien compris. Donc, on porte avec Jésus, Marie et Joseph glorifiés. En nous, on leur donne l'autorisation de porter, de venir porter l'église de la fin. L'église finale. L'église finale, c'est pas une église des profondeurs. C'est une église qui est tout au service du prochain, tout au service de Dieu, tout au service de la sainteté. C'est une église qui est tout amour avec Éphèse, voyez, qui est tout témoignage avec l'église de Smyrne, qui est toute science de Dieu avec l'église de Bergame, l'église de Thyatire, qui est tout service, service, service de Dieu. C'est Dieu qui se sert de nous. Et avec l'église de, l'église de Sardes, on va voir, voyez, à l'ange de l'église de Sardes écrit, il dit ceci. Alors, du coup, à chaque fois, à chaque église, l'église, vous comprenez bien que quand pour Saint Jean, l'église n'est pas extérieure à lui, l'église est tout intérieure à lui. On ne peut pas critiquer l'église à cause de ça, puisque l'église, c'est moi. Vous ne pourrez pas, Saint Jean, dire critiquer l'église, c'est impossible. Un freudien, oui, il va critiquer l'église. Un athée va critiquer l'église. Mais quelqu'un qui a la grâce, qui est un disciple de Jésus, ce qui est comme Saint Jean, l'église, il le vit dans ce grand mouvement de la gloire du cœur de Marie, de Jésus et de Joseph, qui veulent prendre possession de l'Église à la fin. Et donc on est avec eux et on sert d'instrument. C'est Thyatire, c'est beau ça. L'œuvre de l'Église. Alors à ce moment-là, c'est Jésus et nous, c'est Jésus qui vient paître le monde entier avec un sceptre de fer. C'est beau ça. Regardez, au vainqueur, à celui qui, jusqu'à la fin, garde mes œuvres, c'est-à-dire cette œuvre-là, dans toutes les temps, dans tous les temps, alors je donnerai puissance, pouvoir sur les nations. Il va les paître avec une verge de fer. Il les brisera comme un vase potier d'argile. Je lui donnerai l'étoile du matin. Celui qui fait ça vraiment, il nous donne à l'Église, il nous donne, nous, quand on fait partie, quand on est un disciple de Jésus, on devient l'étoile. Il nous donnera d'être l'étoile du matin, c'est-à-dire d'être l'instrument de la résurrection. L'étoile du matin. Le matin, c'est la résurrection. L'instrument, l'étoile de la résurrection, de la première résurrection. Être avec ce que Saint Jean a appris, hein. Saint Jean a appris avec Marie. Vous sentez ça, l'étoile du matin. Saint Jean, il a appris avec Marie. Il était en phase, hein, en communion avec Marie totale. Hein. Alors là, il n'y a pas de secret là-dessus. Hein. C'était plus pour ça que je disais qu'il est plus qu'intime à être l'étoile de la résurrection, puisque Marie avec Joseph dans la transverbération ont été l'instrument de la résurrection de Jésus du tombeau. C'est comme si c'était trois unis. Alors la foi de Marie dans l'espérance de l'âme de Joseph glorifié par la présence de Jésus crucifié. Donc la charité de Jésus, les trois sont associés pour permettre qu'il y ait une humanité intégrale qui croit et par la foi a pu faire fait Marie. Et par la descente de Jésus aux enfers. Oui, le sept de faire la croix la croix glorieuse. Ce glaive qui a traversé Marie, la transfiguration. C'est quelque chose qui est très 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 extraordinaire. Et bon, Saint Jean, lui, il n'a pas participé à ça. Mais après la Pentecôte, oui, avec Marie, il n'a cessé de revivre ça avec elle de manière toujours plus intense. En communion avec tous les autres apôtres, pour que ce qu'ils vivaient, les apôtres l'aient dans leur cœur, même s'ils ne le faisaient pas avec lui. Parce qu'ils étaient dans d'autres mystères, eux, de complémentarité, voyez. Et donc il s'est entraîné, si je puis dire, c'est pas le mot, mais être l'étoile du matin. Et c'est ce que ça veut dire, ça, Jean, vous comprenez. Mais maintenant que Marie est dans la gloire de la résurrection, avec Joseph, avec Jésus, alors. Cette croix, c'est première, l'étoile, je lui donnerai d'être celui qui va paître toutes les nations avec ce sceptre de fer, être source de la première résurrection. Pas du jugement dernier, vous voyez, qui est la seconde résurrection, mais source de la première résurrection. Je suis instrument de la Sainte Famille Glorieuse dans mon corps spirituel et que j'intègre toute la création et que je fais partie de l'Église. Ça, à ce moment-là, je fais l'œuvre de Dieu. Toutes mes œuvres. Elle est magnifique à l'église de Thyatira, j'ai envie de dire. Donc à Sardes, et voyez bien que du coup, Saint Jean, le vainqueur, c'est lui, c'est Jésus et lui ne sont pas différents. Jésus et Jean ne sont pas différents. La parousie, c'est les disciples de Jésus. C'est Jésus qui vient pour paître les nations avec un sceptre de fer, le mystère de la croix glorieuse, pour produire la première résurrection, mais ça se fait avec les disciples de Jésus. C'est pour ça que vous savez d'ailleurs qu'on se prépare, nous, à ces, si vous voulez, ces instruments pour les noces de l'agneau. Pour être cette première résurrection avec Jésus, pour toutes les multitudes, soient brisées dans leur division, dans ce qui les rend anéantissables. Et la résurrection qui doit se faire. Que Marie, souvent, on ne le dit pas souvent, vous savez, je sais bien, on ne le dit pas souvent, ça, hein, que Marie, les sources de résurrection pour Jésus. Hein? Premier mystère glorieux, Jésus ressuscite d'entre les morts. Marie, source de la résurrection. Ah, ouais, faut pas dire trop vite, hein? Dites pas ça à votre curé. Hein? Si vous dites ça à votre curé, il va vous casser la figure. Hein? Je suppose que ce n'est pas vrai. N'allez pas dire ça au pasteur. Hein? Il va vous casser la figure, il va dire, mais vous êtes pas mal, non? C'est Dieu qui a ressuscité Jésus. C'est Dieu, c'est Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Mais il est passé par la grâce, il est passé par la foi, il est passé par des instruments, il est passé par la charité. Dans sa plénitude. Parce que Dieu ne veut rien faire sans le corps mystique de Jésus, sans Jésus. Et nous, on est des disciples de Jésus, donc quelque part, nous sommes vraiment le corps spirituel de Jésus. Hein. Alors, l'Église de Sardes, à l'ange de l'Église de Sardes écrit, il dit ceci, celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres. Tu as pour renom de vivre, mais tu es mort. Sois vigilant. Affermis en toi le reste qui allait mourir. Non, certes, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites en face de Dieu. En face de mon Dieu, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. Rappelle-toi donc ce que tu as reçu et entendu. Garde, conserve-le et convertis-toi. Si tu ne veilles pas, si tu n'es pas vigilant, je viendrai comme un voleur. Tu ne sais certes pas à quelle heure je viendrai sur toi. Mais tu as quelques personnes à Sardes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi vêtus de blanc. Ils le méritent. Le vainqueur sera ainsi vêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai jamais son nom du livre de la vie. J'attesterai son nom devant mon Père et devant ses anges. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ça, c'est l'église de Saint. L'église de Sardes, vous voyez, c'est quand même quelque chose de, c'est quelque chose, c'est don, ça correspond au don de conseil, c'est l'esprit de l'église. Les disciples de Jésus sont vraiment le ciment très doux, très onctueux de tout le corps mystique vivant de Jésus. Si vous voulez savoir quelle est votre vocation, si vous êtes un disciple de Jésus, à la parousie, et quand on lit l'Apocalypse, ce que Marie engendre en nous, c'est qu'on est le ciment. Et on est l'huile qui se répand dans les rouages. On est le ciment. Le ciment du ciel et de la terre. Entre le ciel et la terre. Mais c'est comme l'huile de l'onction. Et on est revêtu de cette huile. Et cette huile est représentée pour l'instant par la grâce, par cet écoulement intérieur et à travers nous, cet écoulement qui se répand sur toute la surface de la terre et de tout l'ensemble de la surface de la terre dans les temps futurs et dans les temps passés. Et nous sommes témoins de ça. Et puisqu'on a reçu gratuitement, il faut donner gratuitement. Sinon, on est des pilleurs. Vous connaissez l'histoire de Sartre, je l'ai déjà raconté, le roi Crésus s'est fait piller plusieurs fois. C'était une ville très fortifiée. Puis il a fait attention, je vais te faire voler. Je viendrai comme un voleur. C'est l'église de la sécurité. Jésus. Et Marie et Jean n'aiment pas ceux qui cherchent dans l'église la sécurité. L'église précédente, on ne cherche pas l'équilibre. Il y a une association qui s'appelle Équilibre. Une humanité, je connais. On ne cherche pas l'équilibre. On a des instruments au service. Qui ne sait pas l'équilibre. On est au contraire totalement déséquilibré du point de vue de l'âme parce que c'est pas, on n'est pas inscrit dans notre choix, vous voyez, on n'est pas dans l'hérésie. Les disciples de Jésus ne sont pas dans leur choix. Souvent, quelquefois, les gens me disent, mais mon père, qu'est-ce que je suis malheureuse, je suis seule, je souffre de la solitude. Je dis, mais moi aussi je suis seule. Ah oui, mais vous l'avez choisi. J'ai rien choisi, moi. J'ai pas choisi. C'est Dieu qui m'a demandé. C'est lui qui a choisi. C'est tout. Et vous aussi, vous êtes seul maintenant, papa. Voilà. Très bien. Glorifiez Dieu. Et on ne doit pas piller. Les pillards ont réussi à forcer toutes les sécurités de Sardes, qui était la ville la plus fortifiée de l'époque. C'est extraordinaire, ça. Il faut dire qu'après ça, il y avait beaucoup de mines d'or, là, beaucoup d'or à ça. Alors le roi Crésus avait une grande fortification. C'était quand même pillé par les bandits. Alors on arrête avec des sécurités élargies des portes. élargit tes portes. Abraham avait une tente à 1000 portes, ça veut dire, comme dit le Midrash, c'est-à-dire qu'il était ouvert à tous les côtés. Tu as reçu gratuitement, tu donnes gratuitement. Source d'unité. Don de conseil. Quand tu es de mauvais conseil, tu divises. Quand tu es de bon conseil, tu ris. Tu mets de l'huile dans les rouages. Si tu cherches la sécurité, tu diviseras. Si tu fais un ghetto, ça ne fera pas pour quelque chose de très 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 bon. Quand on fait un ghetto, ça veut dire quelque part, on a une intention de génocide. Faire attention à ça. Eh bien, voyez, on souille le sacrement. Heureux ceux qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Si tu vis en cherchant ta sécurité, et dès que tu as peur, tu t'enfuis. Tu as souillé ton vêtement parce qu'à ce moment-là, le sacrement qui fait pour t'ouvrir et pour que tu donnes gratuitement ce que tu as reçu gratuitement, mais tu l'as souillé, c'est vrai. Tu as pris pour toi le fait que tu n'es pas disciple du Seigneur, de Jésus, pour toi. Enfin, tu es disciple du Seigneur, tu es disciple de Jésus. Jésus t'a choisi pas pour toi, Jésus t'a choisi pour lui. Jésus t'a choisi pour se servir de toi, pour que ce soit possible qu'il y ait le corps mystique vivant entier de Jésus entier. C'est sûr, ça. À ce moment-là, tu rêves, voyez, si, de vivre déjà de la première résurrection, c'est beau. Hein. C'est ce qui est dit, si tu n'es pas, si tu donnes gratuitement tout ce qui descend gratuitement dans le monde entier à partir de l'Église, voyez, combien on le dit souvent, voyez, les vêtements, ça représente les sacrements, hein, vous savez ça. Dans la Bible, hein. Heureux celui qui n'a pas souillé ses vêtements. Si tu reçois le sacrement uniquement pour toi, moi je vais confesser, comme ça je suis pardonné. Oui, mais attends, s'il te plaît, tu as reçu le sacrement, c'est pour qu'il puisse se répandre comme une huile parfumée sur toute la surface de la terre, dans tous les lieux d'accueil ouverts qui se trouvent dans chacun des cœurs humains, de tous des multitudes répandues en cet instant à la surface de la terre pour qu'ils reçoivent cette absolution que tu as reçue, qu'ils la reçoivent sous le mode de l'onction, sous le mode de l'huile, de la grâce et du revêtement intérieur. Tu as reçu gratuitement pour qu'ils reçoivent l'absolution surnaturellement. Tu as reçu l'Eucharistie, mais c'est pour donner à manger à ceux qui ont faim. La présence réelle de l'Eucharistie. Il y a des gens qui n'ont pas faim, c'est vrai. Ils ne sont pas tellement affamés hein, du pain descendu du ciel, mais il y en a plein. Des myriades qui sont affamés du pain descendu du ciel. Ils descendent toutes deux fois par seconde sur la terre pour se communiquer. Et alors, quand je le reçois, il faut vraiment que je le donne, que je le communique de l'intérieur à tous ceux qui ne peuvent pas le recevoir. Ils peuvent le recevoir grâce à... Parce que je suis un apôtre, parce que je suis un disciple du ciel et de la terre. Vous voyez ? C'est ça. J'ai reçu gratuitement, je donne gratuitement. Il y a des gens qui sont choqués quand l'Église explique que dans sa sagesse royale des fidèles, si on vit de l'Eucharistie, c'est pas pour nous nourrir de... Ah, j'ai pas eu ma communion aujourd'hui. Et alors quoi? C'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Et vous comprenez bien que c'est très 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 grand de recevoir la communion eucharistique, mystiquement. C'est évidemment beaucoup plus grand que de la recevoir sacramentellement. Donc, évidemment, vous voyez, il ne faut pas matérialiser, vous voyez, on se sécurise avec des sacrements. Mais les sacrements ne sont pas une fin en soi. Ce sont des instruments, c'est toujours pareil. C'est des instruments. Et nous aussi. Alors quand ce qu'on joue au sacrement est comme tous les sacrements, et puis du coup qu'on donne ce qu'il y a dedans à toute la terre, qu'on donne aussi au monde angélique glorieux. Vous ne pensez peut-être pas à sa voix, hein, quand vous communiez, une petite pensée à votre ange gardien. Pour dire ce que j'ai reçu là. C'est pour toi. Corps vivant, Jésus vivant. Transluminé dans le Verbe de Dieu. Et qui est la voix de l'époux. Avec les épousailles. Je te donne ça, mon ange gardien. Et tu communiques à tous les autres anges par myriades. L'église de Sardes. L'église de Sardes. Et je donne aux enfants aussi. Vous comprenez? Je donne aux enfants. C'est plus que des anges, ces enfants-là. Puisque ce sont les apôtres des derniers temps. Je ne reçois pas les sacrements pour moi, quoi. Il y en a qui sont choqués parce qu'on dit mais il faut que vous donniez le baptême à ces que vous avez reçu à ceux qui y aspirent et qui ne l'ont pas reçu. Ils sont choqués. Pourquoi sont-ils choqués? Je ne comprends pas. Ah oui, parce que c'est une parano. Donc ils sont encore à Jézabel, donc ils ne peuvent pas rentrer dans Sardes. Hein. S'ils sont encore bloqués sur Jézabel, ils ne peuvent pas rentrer dans Sardes. C'est évident. Le syndrome de Crésus ne peut pas être résolu tant que le syndrome de Jézabel ne l'est pas. Ça, c'est évident. Mais Jézabel, c'est les profondeurs. J'interprète tout en fonction. Vous voyez, c'est un truc complètement idiot. Philadelphie. Enfin, à un moment donné, on rentre dans l'église de Philadelphie. Philadelphie, c'est une ville qui a été construite par un roi. Ils étaient deux frères, et ces frères s'aimaient beaucoup. Ils s'aimaient énormément. Et donc, il y a un roi d'Asie mineure qui a décidé de construire une cité, une très belle cité d'ailleurs, très sympathique, par amour pour son frère. Il a fait construire à son frère cette cité. Il a dit, ben voilà, je vais construire ça pour toi. Et cette cité, cette ville s'appelle Philadelphie. Philadelphos. Phila, ça vient de Philaine, aimé, et Delphos le frère, celui qui aime son frère. C'est l'église de l'amour fraternel, vous voyez. Mais dans toute la simplicité, parce que il faut être simple pour faire des choses comme ça, je veux dire. C'est pas un calcul, vous voyez, c'est de l'amour fraternel. C'est l'église de la simplicité, l'église de l'enfance, c'est l'esprit d'intelligence, c'est le souffle de l'esprit qui est pur et qui fait qu'on voit Dieu partout. Parce que si on communique la grâce partout, à un moment donné tout est purifié, du coup on voit Dieu partout et on rentre dans l'église de Philadelphie. L'église c'est ça. Et le disciple de Jésus c'est ça. Dieu est partout. Mais c'est pas parce qu'il veut voir Dieu partout, vous comprenez? C'est pas la force du poignet, c'est que je veux voir Dieu partout. Non, non, c'est pas du tout comme ça. Je suis passé d'abord par l'église d'Éphèse. Il y a une progression, il y a un martyr, l'église de Smyrne, la connaissance de Dieu, l'oraison. Et du coup, l'abandon de l'âme, la nuit accroisée de l'âme, l'abandon de l'âme. L'abandon de la psychologie, je me tâte le pouls, est-ce que je suis bien, est-ce que je suis pas bien. Et puis la gratuité, quoi. Et puis la commune. Et alors à ce moment-là, on rentre dans la simplicité. On rentre dans l'église de la lumière, l'église de la pureté, l'église de l'enfance. Et c'est l'église de Philadelphie, est très belle. L'église de l'amour vis-à-vis de celui que Dieu est proche de moi. À l'ange de l'église de Philadelphie écrit ceci. Il dit ceci. Le saint, le vertré, celui qui a la clé de David. S'il ouvre, personne ne ferme. ferme, personne n'ouvre. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai donné en face de toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. J'ai placé devant toi une porte. Elle est ouverte, personne ne peut la fermer. Malgré ton peu d'ardeur, tu as gardé mon logos, mon verbe. Tu as gardé ma parole. Tu n'as pas renié mon nom. Malgré ton peu de ferveur, oui, c'est beau ça. Bizarre. Voici, je donne de la synagogue du Satan ceux qui se disent être juifs. Ils ne le sont pas. Ce sont des menteurs. Voici, je les fais venir se prosterner à tes pieds et pénétrer et qu'ils voient clairement que moi, je t'aime. Parce que tu as gardé les paroles de mon endurance. Moi aussi, je te garderai à l'heure de l'épreuve, celle qui va venir fondre sur l'univers entier pour éprouver et purifier les habitants de la terre. Je viens vite. Maîtrise ce que tu as pour que personne ne prenne ta couronne. Le vainqueur, j'en ferai une colonne dans le sanctuaire de mon Dieu. Il n'en sortira jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel de mon Dieu et mon nom, le nom nouveau. Celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Ça est belle, hein, celle-là. L'Esprit d'intelligence. Voyez. Chacune des églises, le Saint-Esprit est le principe d'unité en un seul corps de tout ce qui est au ciel, tout ce qui est sur la terre, dans la grâce du fruit du sacrement. À l'intérieur de ma chair vivante, le disciple de Jésus. C'est à l'intérieur de ma chair vivante, le disciple. Sous le souffle de l'Esprit d'intelligence, sous le souffle bienheureux, les cœurs purs, ils voient Dieu. C'est un dépassement de l'unité de la Jérusalem spirituelle, de la Jérusalem glorieuse, et du corps mystique de Jésus, un dépassement. C'est qu'on est tout à voir dans cette vision de Dieu. Parce que l'amour fraternel est tellement grand qu'il n'y a aucun obstacle à l'amour de Dieu. Il n'y a aucun obstacle à la vision de Dieu. C'est la cité de l'amour. On est les mêmes enfants et on voit Dieu. Et ça se fait calmement, vous voyez. Même si tu as peu de ferveur, même si tu n'as pas de ferveur maximum, il y a toujours un reproche. Hein. Il montre quand même peut-être un peu plus ferveur. Hein. Voilà. En face de toi, parce que tu veux voir Dieu. En face de toi. L'Église, elle veut voir Dieu. À un moment donné, à travers nous, l'Église veut voir Dieu. Je veux voir Dieu. Et quand vous dites dans l'oraison « je veux voir Dieu », comprenez bien que c'est le « je » de l'Église. C'est le « je » de la Jérusalem céleste, même dans la Jérusalem céleste, Jésus, Marie, Joseph, vous comprenez, Marie, Joseph, même ressuscité, même eux, ils sont dans la vision béatifique, hein, ils voient Dieu, là, il n'y a pas de doute, mais ils ne le voient pas comme nous le verrons, comme je le verrai lorsque nous serons dans la Philadelphie glorifiée. Vous comprenez, lorsqu'on sera tous ensemble dans un amour fraternel sans tache, immaculé, à ce moment-là on verra Dieu. Une soif de la vision de Dieu, une vision. Il faut comprendre, vous savez, il faut comprendre ça. Je veux voir Dieu. L'Église, c'est ceux qui veulent voir Dieu. Le disciple de Jésus, Jean, il veut voir Dieu. C'est ce qui fait la force de l'amour de Jean. Son cœur est rempli d'amour pour tout le monde parce qu'il veut voir Dieu. Ça, c'est l'église de Philadelphie. Alors, à ce moment-là, si tu veux voir Dieu, alors ton nom, c'est-à-dire la présence vivante, sera dans ta contemplation. La présence vivante de la Jérusalem céleste sera dans ta contemplation. La présence vivante de l'épouse sera dans ta contemplation. de Dieu, du Père, du Fils, du Saint-Esprit sera dans ta contemplation. Les quatre noms pour s'inscrire sur votre front. Je veux voir Dieu. Mais je ne peux pas voir Dieu tout seul. Je vais rentrer dans le tunnel et je vais rentrer dans la lumière. Ça y est, j'ai rencontré l'amour tout seul. Dans les énergies de la lumière et de l'amour cosmique. On sent que l'église de Philadelphie, c'est quelque chose de très très. Si vous voulez mettre un nom sur l'église de Philadelphie, ce serait intéressant de mettre un nom d'un saint sur chaque église, voyez. Ça intéresse l'église de Philadelphie, c'est intéressant pour Jésus, hein. C'est sûr. Elle est tout, elle veut être martyr, elle est apôtre, elle est missionnaire. Elle veut être la mère Teresa, tout. Elle est l'amour, quoi. L'amour. Elle veut être amour. Dans l'église, je serai l'amour. Je serai l'amour. Et c'est avec cet esprit d'enfance. Du coup, c'est pur. Et du coup, on veut voir Dieu. Et du coup, la présence de Dieu est dans notre contemplation. La présence de la Jérusalem glorieuse, toute simple, toute limpide, toute fraternelle, est dans notre contemplation. C'est extraordinaire comme traité de l'Église. Vous voyez, il y a des théologiens, des écrivains. J'espère que vous avez lu beaucoup de livres comme ça, justement pour pouvoir apprendre à dire ça sert à rien. Mais sur le traité de l'Église, le traité de l'Église. Oh, comme c'est intéressant. Bon, alors, Apocalypse. Beaucoup mieux. Comme traité de l'Église, c'est génial. De l'église, c'est génial, l'église vient en haut. Elle vient de là. Ouais. À l'église de la Odyssée, je reliens le vainqueur, j'en ferai une colonne dans le sang, dans le kadosh de mon Dieu. Oh! Saint, le kadosh, le saint des saints, comme on dit comme ça, moi j'aime bien dire la prière, je plonge mes deux mains dans le saint des saints, et je bénis le Seigneur, je plonge, vous dites ça le soir, hein, avec Siméon, tous les soirs, tous les chrétiens disent cette prière, maintenant Seigneur, maître souverain, tu peux laisser s'en aller, ton serviteur, levez les mains vers le saint, vers le kadosh, levez les mains vers le saint. Plongez vos deux mains dans le sein des saints et bénissez le Seigneur. Le Seigneur te bénisse de Sion, lui qui crée le ciel et la terre. C'est extraordinaire, j'en ferai une colonne. Alors, quand c'est les deux mains, c'est déjà pas mal. Mais toi, tout entier, toi. Colonne. T'es pas dans le sein des saints, tu es la colonne dans le sein des saints. Attends, c'est quand même pas mal, hein. C'est ce qui soutient le saint des saints de Dieu. Oh. Ce qui soutient le saint des saints de Dieu. Vous avez entendu parler de ça? Bon, essayez d'y mettre le petit doigt le soir quand même. Je sais pas quand vos pieds seront dans la fournaise, après c'est bon. Mais ouais, la colonne, c'est quand même extraordinaire, ça. Ouais. Alors quand vous êtes colonne dans le saint des saints de Dieu, de mon Dieu, à ce moment-là, regardez, il n'en sortira jamais. Il n'en sortira jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Le nom de la cité de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel de mon Dieu, et mon nom, le nouveau nom, le nom nouveau, celui qui a des oreilles qui entend. Extraordinaire ça. Le nom aussi, moi on nous faisait apprendre par cœur quand on était séminariste, quand on était novice. Ce que veut dire le nom. Shem. Shem Elohim, le nom de Dieu. Shem. Shem. Quand tu regardes Dieu, Shem. Le petit gosse, c'est le premier mot qu'il doit prononcer dans sa bouche. Quand il a un an, on essaie de lui faire dire Shem. Après, la voyelle, après, Shema. Une fois que tu as le nom de Dieu, tu peux dire Shema. Écoute. Shem, le nom. Le nom, ça se traduit comme ça. C'est la présence actuelle, vivante, féconde et efficace de Dieu. C'est Dieu dans sa présence actuelle. Dieu dans sa présence actuelle. Vivant, fécond et efficace. Alors, chemin. Je l'inscrirai sur lui le nom, mon Dieu, le nom de la cité. C'est son nom éternel. D'avant la création du monde, la présence réelle, vivante, sera inscrite. Je la verrai. Le nom de la cité, c'est le nom du ciel. C'est la présence vivante du ciel. Du dedans et du dehors. Et le nom nouveau, c'est ce qu'il y a au-delà. Des noces glorieuses de l'anneau glorieux. Et ce passage où la Jérusalem glorieuse et le nom de Dieu disparaissent dans la blessure du cœur de Jésus pour entrer dans une présence toute différente, toute nouvelle de Dieu. C'est comme si la gloire de Dieu faisait une conversion. Le nom tourne. Ça, c'est pour les cœurs purs. Ceux qui n'en ont rien à cirer de voir Dieu, ils ne verront pas là. Il y a beaucoup de demeures.